Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur la prière d'autorité dans Jacques chapitre 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Amen. En tant que chrétiens, nous avons reçu une autorité spirituelle. Cette autorité spirituelle nous est accordée par Dieu pour un but. En fait, pour faire les œuvres de Dieu. Jésus a dit lui-même, vous ferez les œuvres que je fais et vous en ferez même de plus grandes. Comment est-ce possible? Ça n'est possible que parce que Christ est remonté au ciel, qu'il a envoyé le Saint-Esprit qui était en Christ. Et ce Saint-Esprit habite en nous et par le Saint-Esprit, nous pouvons faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance parce que ce n'est ni par nos forces, ni par notre puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Nous avons une autorité spirituelle, c'est un privilège. Paul dit même que nous faisons fonction d'ambassadeur. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un ambassadeur? C'est une autorité qui représente son pays à l'étranger. Et même, il représente le chef de l'État. Nous représentons Dieu. Nous représentons Christ sur la terre. Nous faisons fonction d'ambassadeur. C'est une grande responsabilité. Et l'ambassadeur, il est là pour faire connaître la culture de son pays. Et qu'est-ce que nous faisons dans le monde? Nous faisons connaître la culture du royaume de Dieu. Nous partageons la bonne nouvelle. Nous annonçons Christ et nous faisons connaître les merveilles du royaume. Voilà le but d'un ambassadeur. Et nous devons saisir que cette autorité, nous la recevons de Christ pour être des ambassadeurs, c'est-à-dire des représentants du royaume de Dieu sur la terre. La Bible dit même que notre royaume n'est pas de ce monde. Nous sommes déjà citoyens des cieux. Peut-être vous avez une double nationalité. Vous êtes à la fois français et puis d'une autre nationalité. Moi, j'ai la double nationalité. Je suis français et suisse. Mais en même temps, le plus grand cadeau qui m'a été donné, c'est pas par ma naissance physique, parce que mon père est suisse, ma mère est française, mais surtout par la nouvelle naissance, je suis enfant de Dieu et ma patrie est dans le ciel. Moi, je suis sur la terre pour quelques années, mais le plus important, c'est l'éternité qui vient derrière. Alors, ici, on parle d'Élie. L'autorité d'Élie, on la retrouve dans 1 Roi, chapitre 17, verset 1. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon... » à ma parole. Relevez bien la fin du verset. Sinon, à ma parole. La parole d'autorité. La prière qui va changer les situations. En fait, nous nous rendons compte qu'Élie, c'est un prophète, donc il parle de la part de Dieu. Dieu a mis des paroles dans sa bouche et il va prononcer ce que Dieu lui demande. Rappelez-vous comment Dieu a créé l'univers. L'Esprit se mouvait au-dessus des eaux et Dieu dit que la lumière soit. Et c'est par la parole que Dieu a créé l'univers. La parole est puissante entre les mains de Dieu pour transformer des situations, pour amener la vie là où il y a la mort. Mais la parole, c'est à double tranchant. Car vous pouvez utiliser la parole pour bénir et faire l'œuvre de Dieu, mais vous pouvez aussi utiliser la parole pour dire du mal, pour critiquer, pour juger et pour condamner. Cette parole est à double tranchant. Cette parole peut être utile entre les mains de Dieu pour faire son œuvre. Et en même temps, cette parole, vous pouvez blesser quelqu'un et le détruire. Tout dépend de l'inspiration qui nous anime. Je prends l'exemple de l'apôtre Pierre. C'était quand même un disciple remarquable. À un moment donné, Jésus pose la question aux disciples. « Qui dit-on que je suis ?» Et Pierre, les disciples répondent, Les uns disent que tu es Élie, les autres disent que tu es Jean-Baptiste. Il y en a qui disent que tu es un des prophètes, d'autres disent que tu es Jérémie. Jésus leur dit, mais vous, qui dites-vous que je suis ? Pierre a une inspiration. Et il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus dit, mais ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. C'est-à-dire, tu ne l'as pas connu en allant étudier à l'école, en étudiant même la Bible ou l'Ancien Testament pour les Juifs. Il dit, c'est mon Père qui te l'a révélé directement. L'inspiration. Par nos paroles, nous pouvons dégager une inspiration. Quelques instants plus tard, Jésus explique aux disciples, « Dans peu de jours, j'irai à Jérusalem, je serai rejeté par le peuple, je serai jugé, on me mettra à mort, mais je ressusciterai le troisième jour. » Et Pierre, quand il entend cela, il prend Jésus à part et il lui dit, « Mais Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas dans ton message. » Il le reprend. Vous imaginez un apôtre qui reprend Jésus, il faut le faire quand même. Il lui dit, mais ça ne sonne pas bien ce message. La mort, être rejeté, et les disciples ne voulaient pas de ce message. Le message de la croix. Et la réaction de Jésus, parce que là, Pierre a une autre inspiration. Un instant avant, il était inspiré par le Saint-Esprit, Dieu lui parle, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Un instant après, Jésus lui dit, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale. » Ce ne sont pas les pensées de Dieu que tu donnes, ce sont les pensées des hommes. Une autre inspiration. La même bouche, dans le même laps de temps, inspirée, les paroles de Dieu édifiantes, et ensuite des paroles décourageantes, des paroles qui ne sont pas de Dieu. Tout dépend de l'inspiration. C'est pourquoi il faut que notre esprit soit connecté avec l'Esprit de Dieu pour que nos paroles, comme pour Élie, donne les paroles de Dieu et non pas les paroles des hommes ou les paroles qui nous passent par la tête. La parole d'autorité vient des paroles mêmes de Dieu. Et quand nos paroles sont en adéquation avec la parole de Dieu, ça crée de la puissance. Un petit peu comme le turbo dans une voiture. J'ai eu l'occasion de conduire une voiture sans turbo et avec turbo. Et au début, on avait donc une voiture sans turbo. Et je vous assure, quand on partait en vacances avec 5 dans la voiture plus tous les bagages et qu'on devait doubler une voiture, il fallait bien s'assurer qu'on ait vraiment le temps de la doubler. Parce qu'on pouvait mettre plusieurs minutes pour dépasser un camion. Elle avait du mal à s'élancer. Mais quand vous avez un turbo, vous appuyez sur l'accélérateur, il y a un appel d'air dans le moteur et votre voiture décolle. C'est très différent. L'air, c'est l'image du Saint-Esprit. Quand vous avez le Saint-Esprit sur votre vie, vous avez un turbo dans votre moteur. Vous allez avancer beaucoup plus vite. Vous allez faire des accélérations. Pourquoi ? Parce que l'Esprit va vous pousser dans la bonne direction, va être comme un souffle qui va alimenter votre moteur. Les paroles que nous prononçons doivent être inspirées de la parole de Dieu. Quand nos paroles sont calquées sur la parole de Dieu, alors nous utilisons le turbo et ça devient puissant. C'est ce qui s'est passé pour Élie. Attention, il faut toujours y ajouter la foi parce que nos prières, c'est pas des mantras, c'est pas de répéter toujours la même chose. Mais Jésus dit dans Jean 6, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est ces paroles-là dont nous avons besoin. Les paroles de Jésus sont esprit et vie. Ça va donner de la puissance, ça va donner de l'autorité à notre prière. La prière d'autorité est conduite par le Saint-Esprit. Élie ne prie pas tout ce qui lui passe par la tête. En fait, notre communion avec Dieu va nous donner une prière d'autorité. Vous l'avez remarqué dans le texte que nous avons lu, il est dit que Élie, c'était d'abord un serviteur. Et on ne peut pas avoir une prière d'autorité si on n'est pas d'abord un serviteur de Dieu, si on n'a pas obéi au Seigneur. Vous voyez, Jésus a beaucoup enseigné sur le fait d'être un disciple. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent être bénis, qui veulent recevoir toujours davantage et plus de gloire de Dieu, plus de bénédictions dans leur vie. Mais qui veut vraiment être un disciple aujourd'hui ? Un disciple, ça veut dire trois choses. Si quelqu'un veut être un disciple, dit Jésus, qu'il renonce à lui-même. C'est difficile, ça. C'est pas l'évangile de la prospérité, de la bénédiction, tout s'ouvre, tout est... Renonce à toi-même. Porter chaque jour sa croix. C'est facile ou c'est difficile, ça? Difficile. Porter sa croix, ça veut dire accepter l'opprobre de Christ. Qu'on soit méprisé, rejeté comme Christ a été rejeté. Qu'on soit mis de côté, humilié à cause de notre foi. Porter sa croix, c'est pas facile d'être un disciple. Et puis, suivre, qu'il me suive. Chaque jour, suivre le Seigneur. Alors, c'est facile de suivre le Seigneur quand on est entre chrétiens, mais quand on est dans un milieu où le monde domine, c'est pas facile. C'est pas facile d'être un disciple. C'est pourquoi il y a beaucoup de croyants, mais il y a peu de disciples. Les disciples sont ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Il y a toujours beaucoup moins de candidats. Le message de Jésus était même si peu populaire que certains de ses disciples l'ont abandonné. Quand Jésus a commencé à parler, « Si vous ne mangez ma chair, si vous ne buvez mon sang, vous n'aurez pas la vie éternelle. » Et les disciples ont dit, mais qui peut entendre ces paroles? Et ils commencèrent à l'abandonner. Jésus s'est retourné vers les 12. Et vous, ne voulez-vous pas aussi partir? Et c'est là où Pierre, on voit qu'il est un disciple. Pas un disciple lointain, mais un disciple accroché à Jésus. Parce qu'il dit, à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. À qui d'autre? Ça veut dire, nous ne lâcherons pas. Nous te suivrons jusqu'au bout. Nous renoncerons à nous-mêmes, nous porterons notre croix, nous serons des disciples. Donc cette détermination les a accompagnés. Et effectivement, les 12 ont vraiment suivi jusqu'au bout, mais parmi tous les disciples qui étaient là autour du Seigneur, beaucoup l'ont abandonné parce qu'ils n'étaient des disciples. En fait, c'était des croyants pour un temps, mais ils n'étaient pas des réels disciples de Christ. La prière d'autorité confronte les autorités démoniaques. Élie va confronter Achab. Vous avez certainement entendu parler d'Akab. Akab, c'est un mauvais roi en Israël. Mais pas que un mauvais roi. Si on fait le palmarès des plus mauvais rois, Akab, c'est le plus mauvais roi de tous les mauvais rois d'Israël. Et Élie va confronter l'esprit qui est derrière Akab, qui est un esprit démoniaque. Akab est marié à Jézabel. Jézabel, c'est une femme qui a implanté l'idolâtrie en Israël. Elle a fait tuer les prophètes. Elle a fait mettre à mort les sacrificateurs, tous ceux qui servaient dans le temple. Elle a installé le temple de Baal dans le cœur du peuple. Elle est animée d'un esprit démoniaque. On a un couple, en fait, ici, Akab et Jézabel, c'est le pire couple, le plus mauvais. On dirait que les méchants s'attirent. Les deux méchants s'attirent l'un l'autre et ils forment un couple de grands méchants, animés d'une inspiration diabolique pour la destruction du peuple de Dieu. Eh bien, Élie va confronter la personne la plus importante du royaume d'Israël, c'est-à-dire Akab et sa femme, qui pouvait d'un mot le faire tuer. Eh bien, la prière d'autorité, frères et sœurs, nous donnera de confronter des puissances. Aujourd'hui, ce n'est pas un Akab ou une Jézabel, mais ce sont des puissances. Parce que Akab et Jézabel sont morts, mais les puissances qui les animent, elles sont toujours là. Et la prière d'autorité va vous faire vous lever et vous dresser contre ceux qui sont animés d'un esprit démoniaque, un esprit impur qui les conduit à faire le mal. La prière d'autorité est efficace et durable. Quand Élie a prié, la pluie a cessé de tomber pendant 3 ans et demi. La prière est efficace. C'est une prière d'autorité. Et quand il s'est mis à nouveau à prier, la pluie est revenue. L'exaucement, en fait, est conditionné par notre soumission à Dieu. Le centenier romain, qui avait son serviteur malade, l'a bien compris. Il dit à Jésus, « C'est même pas la peine que tu rentres sous mon toit. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Moi, j'ai des supérieurs qui me donnent des ordres, mais j'ai aussi des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un va, et il va. Il a compris que la maladie même est soumise à la parole de Christ. Il dit que si toi, Jésus, tu dis maladie, tu pars, la maladie part. Il y a une telle autorité dans la parole de Jésus. Et Jésus fait la remarque, je n'ai pas trouvé en Israël une aussi grande foi, voyez, un centenier romain, quelqu'un qui n'était même pas du peuple de Dieu. Il a compris que notre autorité, la prière d'autorité que nous allons développer, dépend de notre soumission à Dieu. Plus nous sommes soumis à Dieu, plus notre prière va être revêtue d'autorité spirituelle. Plus nous menons notre vie comme nous le voulons, moins notre prière aura d'efficacité ou d'impact, parce qu'elle est liée à notre obéissance, notre soumission à Dieu. La prière d'autorité ouvre le ciel. Quand, au bout de 3 ans et demi, Élie prie, le ciel s'ouvre. Personne n'y croit à ce moment-là, ça fait 3 ans et demi qu'il n'est pas tombé d'eau, qu'est-ce qu'un homme peut faire? Vous voyez, les chrétiens, on nous prend pour des fous. On est devant des montagnes, on est devant des impossibilités, et nous on prie. Mais la chose n'a pas changé, on est toujours, en 2021, c'est toujours les mêmes principes. La prière est toujours aussi puissante, mais vous trouverez toujours des accabs qui disent « mais ça sert à rien de prier, tu vois bien que Dieu ne t'entend pas ». Même le serviteur du prophète, Élie l'envoie regarder au loin, « est-ce que tu vois pas un petit nuage ?» Rien du tout. Il n'y croit plus. Personne n'y croit. La prière d'autorité, parfois vous serez seul, mais vous continuerez à croire et à faire confiance à Dieu. Pourquoi? Parce qu'Élie a développé une vision. En fait, Élie est en train de prier, le visage contre terre. Il ne regarde pas vers Akab. Il ne regarde pas vers son serviteur. Il ferme les yeux, et fermant les yeux, il regarde vers Dieu, qui est capable d'ouvrir le ciel. Il ne se laisse pas décourager par ce qu'il entend. Et je vais vous dire quelque chose. Le texte dit que Élie entendit comme un son de pluie qui arrive. Personne ne l'a entendu. Mais parce qu'il a une prière d'autorité, il entend des sons que le monde ne peut pas connaître. Ni Akab, ni le serviteur. Personne n'a entendu, c'est un son spirituel. Et il savait qu'à l'issue de sa prière, il allait y avoir la pluie qui allait tomber. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Il développe une vision, il entend le bruit de la pluie. Il dit à Akab, tu peux déjà partir. Akab n'y croit pas. Le texte dit, en peu d'instants. Ça, c'est la main de Dieu, frères et sœurs. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit, la pluie tomba et la bénédiction s'est répandue sur le pays. Il y a eu beaucoup de prières, beaucoup de temps où il ne s'est rien passé, mais quand Dieu prend le contrôle de la situation, la chose s'accélère. Alors, c'est peut-être votre cas ce matin. Vous êtes seul à croire, un petit peu comme Élie, parce que dans votre famille, votre mari ne croit pas, ou votre épouse ne croit pas, vous êtes tout seul. Vous priez pour vos enfants, vous ne voyez aucun changement, vous êtes découragé. Mais faites comme Élie, ne vous fiez pas à ce que vous entendez avec vos oreilles, ne vous fiez pas à ce que vos yeux vous montrent, fermez les yeux, développez une vision, commencez à entendre les sons de Dieu, et vous verrez en peu d'instants, ça c'est maintenant la part de Dieu, en peu d'instants, les choses vont changer. C'est le miracle qui prend place. Un autre exemple se trouve dans Acte 9, c'est Pierre qui a une prière d'autorité ici avec Dorcas. Il y avait à Joppé, donc c'est Acte 9, 36, il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup d'aumônes et de bonnes œuvres. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute, comme Lydde était près de Joppé. Les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde. Il se mit à genoux et pria en se tournant vers le corps et dit « Tabitha, lève-toi ! » Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit, il lui donna la main et la fit lever. Il fit appeler ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu dans tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un corroyeur nommé Simon. Pierre est connu ici comme un homme de prière. Et quand il y a des besoins importants, quand il y a des gros problèmes, ce qu'on va chercher, ce sont des hommes et des femmes de prière qui sont connus pour avoir une proximité avec Dieu. C'est cela dont vous aurez besoin à ces moments-là. La question, c'est, est-ce que vous êtes connu comme un homme ou une femme de prière? Et pourquoi êtes-vous connu, en fait? Comme quoi êtes-vous connu? Est-ce que vous êtes connu comme un chrétien sérieux, fidèle, qui aime Dieu, qui prie, ou quelqu'un qui parle à tort et à travers, qui critique son frère, qui juge, qui a des paroles négatives? Parce que ça déterminera ce pourquoi vous serez employé. Parce qu'on n'est pas allé chercher quelqu'un qui était dans la critique et le jugement, on est allé chercher un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, quelqu'un qui a développé une proximité avec Dieu. Vous serez amené à faire des choses en fonction de ce que vous dites ou de ce que vous faites. Et si vous ne faites pas, vous ne serez pas convié. Alors ne soyez pas étonné. Si vous n'êtes pas convié dans les moments importants, il y a peut-être une raison. Et il faut se poser des questions dans notre esprit et de se dire, ben, peut-être il faut que je mette de côté telle ou telle activité, que je me concentre davantage sur les choses de Dieu. C'était le cas de Pierre. Pierre avait une autorité du fait de sa communion avec Dieu. Mais si vous critiquez tout le temps votre frère ou votre sœur, mais Dieu vous fuit et vous n'avez pas d'autorité spirituelle. Dieu ne peut pas vous bénir. Dieu ne peut pas vous accorder des grâces et des bénédictions. Et quand il y a des gros problèmes, on ne cherche pas n'importe qui. On cherche des personnes qui ont une relation avec Dieu. On cherche des personnes qui ont un bon témoignage. On cherche des personnes qui sont proches du Seigneur. Un homme de foi, Pierre. Si vous doutez, quand vous priez, vous doutez constamment, vous ne croyez pas que Dieu peut le faire, en fait, vous éteignez la puissance de votre prière. Jésus l'explique dans Marc 11, 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, vous pouvez souligner cette phrase, qui vient au milieu de la prière, mais il y a une raison fondamentale, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. La seule chose que Dieu demande, quand on prie, c'est de croire, de chasser le doute, l'incrédulité de notre cœur. Le plus grand reproche que Jésus fait aux disciples, c'est pas tellement qu'ils prient pas assez, qu'ils sont pas assez dans lire la Bible, ces choses-là. Le plus grand reproche qui vient le plus souvent, c'est « Homme de peu de foi, pourquoi avez-vous douté ?» Homme de peu de foi, gens de peu de foi. Constamment, Jésus leur dit « Mais pourquoi avez-vous douté? Pourquoi vous ne croyez pas ?» C'est quelque chose qui ne plaît pas au Seigneur. Un jour, une femme avait eu un enfant par miracle, c'est à l'époque du prophète Élisée. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant, Élisée a prié, elle a eu un enfant, et puis l'enfant a grandi, mais un jour, alors qu'il était dans les champs, il a eu très mal à la tête, il est revenu voir sa mère, et il est mort sur les genoux de sa mère, alors qu'elle priait pour lui. Et elle l'a laissé là dans le lit, et elle est allée voir l'homme de Dieu, Élisée. Alors, Élisée a envoyé Géasi, et lui a dit, tu prends mon bâton, et tu vas la mettre sur la tête de l'enfant, et tu vas prier pour lui. Et Géasi, le serviteur, est arrivé vers l'enfant. Il a mis le bâton, il ne s'est rien passé. Pourquoi? Parce que Géasi avait des problèmes dans sa vie. Il n'avait pas la prière d'autorité. Il est revenu vers l'homme de Dieu, il dit, mais il n'y a eu ni voix, ni bruit, rien s'est passé. Et lorsque Élisée arrive dans la chambre où était couché l'enfant, il met sa bouche contre sa bouche, ses yeux contre ses yeux, ses mains contre ses mains. Il prie avec la prière d'autorité. La chaleur revient dans le corps de l'enfant. En fait, l'âme qui était partie revient et l'enfant revient à la vie. La prière d'autorité fait la différence. Mais en réalité, ce qui fait la différence, c'est qu'Élisée avait une communion avec Dieu qu'il avait développée, tandis que Géasi, c'était un croyant artificiel, un croyant de surface, qui n'a pas pu exercer l'autorité. Pierre, donc, quand il arrive chez Dorcas, il fait sortir tout le monde. C'est d'ailleurs la même méthode que Jésus, quand il était allé pour la résurrection de la fille de Jaïr. Il fait sortir tout le monde. Ça veut dire quoi? Il y avait des gens qui pleuraient, il y avait des gens qui doutaient, il y avait des gens qui n'y croyaient pas. Il fait sortir tout le monde. Pourquoi? Juste pour avoir un climat de foi. et prier pour la personne. Il n'a pas trouvé, en fait, dans les croyants qui étaient là, il n'a pas trouvé une personne qui pouvait venir avec lui pour prier à ce moment-là. Il n'a pas trouvé. Et il savait très bien que s'il prenait des personnes qui n'étaient pas en parfaite adéquation avec la pensée de Dieu, ça allait être contre-productif. Alors il préférait les mettre dehors. Il se met à genoux parce que la prière d'autorité est humble. Et j'ai remarqué que la prière d'autorité est brève. Pierre dit trois mots. Tabitha, lève-toi. Et dans l'original, il ne dit que deux mots. Et suite à ce deuxième mot, la femme se réveille, elle se redresse. Prière d'autorité en action. Ce n'est pas la quantité de paroles, mais ce sont les paroles, en fait, que Dieu met sur notre bouche qui vont faire autorité. Je pense à l'autorité de Paul dans Actes 16, qui, alors qu'il est en train de prêcher l'évangile, est confronté à une femme qui dit l'avenir et qui les suit en disant « Ces serviteurs, ces hommes sont des serviteurs du Dieu Très-Haut, ils annoncent la voie du salut. » Ça paraît juste, mais en réalité, elle était animée d'un esprit de python. Paul se retourne et dit à l'esprit, c'est bien dit comme ça dans le texte, il dit à l'esprit « Je te l'ordonne, au nom de Jésus-Christ, sors de cette femme. » La prière d'autorité ordonne. Paul a du discernement, il voit que cette femme, en fait, est manipulée. D'abord, il y a des maîtres qui l'utilisent. Le texte est dans Actes 16, versets 16 à 18. Il y a des maîtres qui l'utilisent pour profiter de sa divination. Mais il sait très bien que derrière cette femme qui dit des choses vraies, il y a un esprit impur qu'on appelle un esprit de python. C'est un esprit de divination. Et le texte dit que Paul s'adresse à l'esprit. La parole d'autorité s'adresse à l'esprit. Paul sait très bien que ce n'est pas la servante en elle-même qui est le problème, mais c'est l'esprit qui est derrière la servante, qui l'anime. Et il va donner une parole d'autorité. Il dit dans sa prière, « Je te l'ordonne ». Et il parle durement. Voyez, la prière d'autorité, ce n'est pas une parole « S'il te plaît, aie l'aimabilité dans ta bonté, ta bienveillance de bien vouloir quitter cette femme ». Ce n'est pas une prière gentille. Il ordonne, c'est-à-dire il s'arrête, il s'adresse à l'esprit, il ne s'adresse pas à la femme, il dit à l'esprit, « Je te l'ordonne, au nom de Jésus-Christ, sors ». La prière d'autorité, c'est une prière audacieuse, c'est un ordre, et l'esprit est obligé d'obtempérer. Jésus a donné cette autorité dans Luc 10, 19. À qui est-ce que Jésus a donné cette autorité? Il l'a donné aux disciples. C'est pour ça, tout à l'heure, j'ai parlé de qu'est-ce que c'est qu'un disciple. J'ai dit, il y a beaucoup de croyants, mais il n'y a pas beaucoup de disciples. Aux disciples, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et le mot pouvoir ici, en réalité, vous pouvez traduire l'autorité. Dans beaucoup de versions, c'est indiqué, je vous ai donné l'autorité. Et il s'adresse à des disciples. C'est important que nous devenions des disciples si nous voulons avoir la prière d'autorité. Cette prière d'autorité, nous pouvons l'exercer par Christ. Il n'y a que ceux qui la reçoivent qui peuvent l'exercer. Imaginez que votre femme vous offre un vélo d'appartement. En fait, elle a une idée derrière la tête. Et elle voudrait bien que l'embonpoint qui s'est formé à travers les années diminue. Donc son idée, c'est « je t'offre un vélo d'appartement, mais dans un but. » C'est que tu pédales pour que tu... C'est ça l'idée. Maintenant, si vous prenez le vélo d'appartement, vous y accrochez vos pantoufles dessus, vous l'utilisez comme un porte-cintre, ce n'est pas l'objectif. Dieu, s'il nous donne une autorité, c'est bien pour un but. Ce n'est pas pour qu'on en fasse autre chose. Et bien souvent, nous n'utilisons pas l'autorité que Dieu nous donne. Nous faisons comme si nous avions ce vélo d'appartement et puis nous l'utilisons comme objet de décoration, nous l'utilisons pour accrocher des choses dessus, nous l'utilisons pas pour ce dont il est fait. L'autorité a été donnée pour un but, c'est faire les œuvres de Dieu. La prière d'autorité se base sur le nom de Jésus. Remarquez que Paul dit « au nom de Jésus ». Il ne dit pas en son nom, Il ne parle pas d'autre chose. Il met d'abord le nom de Jésus, et c'est au nom de Jésus que l'Esprit... Parce que les esprits ne nous craignent pas personnellement, mais ils craignent Christ en nous. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Je termine avec... Allez, j'ai pensé à une sœur pour terminer, à une femme. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Voilà, il y a un homme qui dit Amen, gloire à Dieu. Juges chapitre 5, verset 6. Alors, de qui on parle dans Juges 5? Déborah. Regardez Déborah. Au temps de Shamgar, fils d'Anath, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël, il avait choisi de nouveaux dieux, alors la guerre était aux portes. On ne voyait ni bouclier ni lance. Chez les 40 milliers en Israël, mon cœur est aux chefs d'Israël, à ceux du peuple qui sont montés prêts à combattre. Bénissez l'Éternel, vous qui montez de blanches ânes, vous qui avez pour siège des tapis, vous qui marchez sur la route, chantez, que de leur voix les archers du milieu des abreuvoirs célèbrent les bienfaits de l'Éternel, les bienfaits de son conducteur en Israël. Alors le peuple de l'Éternel descendit aux portes. Réveille-toi, réveille-toi, Déborah, réveille-toi, réveille-toi, dis un cantique, lève-toi, Barak, et emmène tes captifs, fils d'Abinoam. Alors un reste du peuple triompha des puissants. L'Éternel me donna la victoire sur les héros. Amen. Voilà une femme d'autorité spirituelle. Parce que Déborah, c'est une femme exceptionnelle à plus d'un titre. En réalité, dans l'Ancien Testament, c'est la seule femme qui a exercé le ministère de prophète, elle était prophétesse et juge en Israël. C'était une femme remarquable, et d'ailleurs je remarque que pendant son exercice, son mandat, il y a eu un temps de paix pendant 40 ans, ce qui n'a pas été le cas de tous les juges qui ont bien eu souvent un mandat très difficile, chaotique. Mais les hommes ont accepté le choix de Dieu, parce que en fait c'est pas Déborah qui a voulu prendre cette place d'autorité, c'est Dieu qui lui a donné l'autorité. Le peuple d'Israël a reconnu en cette femme l'autorité que Dieu avait donnée. Ça, c'est très important que ça soit toujours l'autorité qui vient de Dieu. L'autorité ne s'impose pas, elle se reçoit. Et voyez, Déborah, elle dégage une telle autorité que Barak, qui est le chef de l'armée, il ne veut pas partir au combat sans elle. Parce qu'elle a une autorité spirituelle très importante. Et lui-même... il sent que si elle ne vient pas, ça va être la catastrophe. Mais la prière d'autorité, comme Déborah, lève-toi Déborah, la prière d'autorité nous permet de nous lever quand les autres sont assis dans la défaite, dans la déception, dans le renoncement. Peut-être vous avez renoncé, vous dites c'est pas possible. Mais la prière d'autorité, vous allez vous lever, comme Déborah. La prière d'autorité vous permet de regarder vers le ciel, comme Jésus qui est devant le tombeau de Lazare. Dedans, c'est la mort. Ça fait 4 jours qu'il est mort, Lazare. Il n'y a plus rien à faire. Mais Jésus se lève et il regarde vers le ciel. Et il dit une prière d'autorité. Lazare sort. La prière d'autorité s'exerce quand vous vous levez et que vous regardez, non pas la difficulté, mais vous regardez vers Dieu qui peut changer la difficulté. C'est ça qui fait la prière d'autorité. La prière d'autorité, c'est une prière de combat. Vous voyez cette femme ? Elle était une combattante du Seigneur. Il y a Paul qui dit, dans le Seigneur, il n'y a plus ni homme ni femme. Et spirituellement, c'est vrai. C'est vrai. Il n'y a plus ni homme ni femme, c'est-à-dire qu'une femme et un homme peuvent combattre de la même manière, avec les armes de Dieu. Et cette femme avait une autorité dans le combat spirituel, que certains hommes n'avaient pas. On est des combattants du Seigneur. Un jour, on faisait un jeûne et prière, et il y a un frère de l'église, alors les frères et sœurs arrivaient, et il dit, voilà les GIs du Seigneur. On venait pour le combat. Il manquait juste les treillis et les rangers. Vous pouvez tous prendre au combat de Dieu. Mais aujourd'hui, ce qu'on a besoin de plus en plus, c'est de frères et sœurs qui combattent. Pas simplement des frères et des sœurs. Tout le monde a sa place dans le combat. Regardez Colossiens 4, 12. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon comme des hommes faits, demeurant disposés à faire la volonté de Dieu. La prière d'autorité amène un réveil. Le verset 12, réveille-toi, Déborah. Le peuple s'était endormi. Barak n'avait pas pris ses responsabilités. Il avait peur, il manquait de bravoure. Déborah suscite un réveil spirituel. La prière d'autorité, prise de conscience que Dieu peut tout faire. Verset 13, la prière d'autorité amène la victoire. Alors, un reste du peuple triompha. Pourquoi ? Parce qu'une femme s'est levée en Israël comme une mère et a dit « Nous irons combattre au nom de l'Éternel ». En voyant l'exemple de Déborah, tout le peuple a repris courage et ils sont allés au combat. Il n'y aurait pas eu cette femme, il n'y aurait pas eu la victoire. Votre attitude va déclencher deux choses. Soit vous allez encourager les autres par votre attitude comme Déborah, par votre autorité spirituelle, soit vous allez les décourager. J'aimerais qu'on prie un instant. Car la prière d'autorité, c'est une arme puissante. Nous devons réaliser que nous ne sommes rien ce matin, mais que Dieu est tout. Et que si vous mettez votre parole, votre prière en adéquation avec la parole de Dieu, alors vous allez pouvoir vous appuyer sur ses promesses. Dieu cherche des hommes et des femmes. C'est pourquoi j'ai voulu mentionner l'exemple de Déborah. Parce que chacun a sa place pour exercer l'autorité spirituelle dans le combat du Seigneur. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont se laisser utiliser par lui. Alors comme Élie, vous pourrez exercer une prière d'autorité qui ouvre le ciel. Comme Pierre, vous pourrez exercer une prière d'autorité qui ramène la vie là où c'est mort. Comme Paul, vous pourrez exercer une prière d'autorité contre les puissances démoniaques. Et comme Déborah, vous pourrez exercer une prière d'autorité qui amène un peuple à se réveiller. Merci encore Seigneur pour ta grâce, pour ta bénédiction, pour la paix que tu mets dans les cœurs. Et nous croyons, Seigneur, que tu vas susciter encore au milieu de nous des hommes, des femmes qui vont saisir cette prière d'autorité pour exercer dans la foi un ministère que tu leur as confié. Et je te prie pour chacun des personnes qui sont là ce matin, chacun de ceux qui nous suivent sur YouTube, que le Seigneur pose sa main et vous accompagne dans le nom de Jésus. Amen.